Where another man of Georgia you quail. Where another man of Georgia you
Bonjour, vous écoutez l'émission Des mots, une voix de Thierry avec Michel Polizzi à la réalisation. Une pensée pour Erwan qui n'a pu assurer la technique comme d'habitude. Sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous pouvez contacter directement l'émission au mail demo.unevoix@laposte.net. Vous pouvez aussi la contacter par courrier à la librairie Publico. Émission Démo Une Voix, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement à Paris. Après avoir reçu Olivier Appert, nous recevons Tristan Félix pour Oven, la saga, sorti aux éditions Tinbad, et pour Laisser pour compte, Journal des douleurs, sorti aux éditions Tarmac. Alors, je propose que, comme là, par exemple, pour Olivier Appert, on n'a pas pu faire de lecture, on n'a pas eu le temps, que vous commenciez directement par quelques lectures pour rendre compte de ce que vous avez fait, Tristan, ça vous va?
D'accord. Alors, je vais d'abord lire un textelet pour faire une transition avec le texte « Blues sur parole » de Olivier Appert. Merci. J'avais souvenance que j'avais écrit un petit texte sur le blues qui date du 14 mai 2009. Qui a jamais vu Oven larme à l'œil? Oh, un souvenir de quand elle était poisson. Au premier signe du fish blues, elle se terre dans l'eau de mer. Ses larmes sèchent en un clin d'œil, car le sel retient l'eau. C'est connu comme le loup grêle. À marée basse, elle émerge aussi sec, l'air de rien, traînant un énorme sac de sel dans la rumba lointaine de l'océan. Du geste auguste du summer, elle saupoudre les yeux des plagistes en chantant « Oh, mamie blues !» Bientôt, lève une récolte miraculeuse de sanglots longs. Un grand festival, qu'il ne faudrait pas manquer. C'est complet. C'est complet.
Merci.
Je vais présenter le recueil rapidement. En 2009 est sorti un premier recueil qui s'est intitulé « Oven » aux éditions Hermaphrodite, qui ont cessé de publier il y a quelques années William Guillot s'est consacré à un autre métier. Et le premier recueil était constitué de 3 fois 36 contes, autrement dit 108 contes, 8 et 1, 9, 6 et 3, 9. Et le deuxième recueil qui est paru chez Tinbad a multiplié l'expérience par 3. Donc on a 3 fois 108 contes, ce qui fait 324, 4 plus 2, 6 et 3, 9. Dans beaucoup de mes recueils, il y a soit du 18, soit du 36, soit du 324. Tout est retourné.
Il faut y croire.
Oui. Alors, qu'on le sache ou pas, je vous le dis, mais si on ne le voit pas, ça n'a pas d'importance. Tout ça, c'est dans les coulisses. Et Radio Libertaire me permet de dévoiler certaines coulisses. Certaines coulisses. 9, c'est le contraire de... Enfin, c'est l'envers du 6 qui ressemble un petit peu à un E, la fameuse disparition. Et ce E, c'est aussi un fœtus, donc c'est quelque chose qui est dans l'œuf, qui est donc 9, c'est-à-dire 6 plus 3. Voilà, c'est quelque chose, pour moi, un chiffre symbolique ou qui est une matrice de création dans l'infini, enfin infini, voilà, résurgente, phénixienne. Donc ça, je clôt cette petite parenthèse. Et pour peut-être faire écho, parce qu'on n'en reparlera pas après, avec votre échange, Thierry Clerc-Victor et toi, Olivier Appert, sur le rapport entre la biographie et les livres que l'on crée ou l'art que l'on crée. Je ne sais pas si je me place sur le même terrain, mais je crois vivre organiquement et 24 heures sur 24 ce que j'écris ou ce que je crée. Alors, on s'en fiche que ma grand-mère, etc. En revanche, toutes les personnes qui m'ont été chères, qui m'ont fait du bien ou du mal, m'ont construite, m'ont architecturée. Et si je fais une omelette, si je marche à côté d'un ver de terre, si j'observe un nuage, si je parle à des handicapés lors d'un atelier, si je manipule une marionnette, c'est intégralement ce que je vis en permanence. Alors, si je suis sur scène, je vais mettre un nez de clown. Mais si je marche dans la rue, je n'ai pas de nez de clown, mais je suis encore dans cette position-là. Voilà. C'est... Ouais, je suis en source résurgente perpétuelle. Voilà. ce que je voulais dire. Et ce recueil de contes d'Auvenne a l'air d'être une série de petites histoires rocambolesques, tragifarsesques, qui semblent nées totalement du langage, donc totalement poétiques, mais qui sont vécues viscéralement de l'intérieur. Même si Auvenne est un personnage, d'ailleurs son nom l'indique, c'est un œuf, Auvenne, et qui est vide et qui est vain. Voilà, c'est aussi un auvert qui n'a pas de R. Donc c'est Auvenne. Je vais vous en lire quelques-uns, comme ça, au fil du recueil. Le tout premier que j'ai écrit sur papier. Les 108 premiers contes ont été écrits sur papier et dans la deuxième série qui s'est étalée de 2009 à 2000, enfin je sais plus, enfin bref, sur une dizaine d'années, c'était déjà sur l'ordinateur. Voilà. Parce que moi je n'aurais pas la descendance de mes ratures. Le tout premier, 9 octobre 2007. Lorsqu'Oven est entré dans la classe, les cheveux de la maîtresse brûlaient par dizaines. Elle a retenu son souffle pour ne pas les chauffer davantage. Alors, des centaines d'yeux écoliers se sont posés sur son crâne chauve. Oven élevait des poux dans ses tresses. C'étaient ses amis jusqu'à la racine. Mais cela n'a pas plu. On l'a rasé. Ses cheveux, désormais, ne peuvent plus brûler. Anne Pellier va vous lire deux contelets.
23 octobre 2007. Le sable de la plage garde l'empreinte d'Auvenne, au moins 2 jours s'il n'y a pas de vent. Cela n'est arrivé qu'une seule fois, entre parenthèses. Cachée derrière les dunes, elle observe sa forme en creux. Des crevettes transparentes glissent entre les grains d'or. Elle profite qu'il n'y a personne pour briller de tout leur feu. Et puis la grande marée arrive, qui éteint cet incendie, qui défait le dessin d'Auvenne. Celui-ci danse encore un instant dans l'écume, comme une grimace. 28 octobre 2007. Auvenne, un soir, par erreur, est invitée à dîner chez la bête. Elle est un peu gênée parce que c'est son histoire par cœur. Elle-même aime l'homme bête. Elle met cependant une robe, après avoir gratté le plus gros de ses croûtes de boue. À minuit, page 6, elle l'étale sur le velours cramoisi d'un grand fauteuil clouté. Des grenouilles fumantes nagent dans la soupe aux diamants. Ses pieds marinent dans ses caoutchoucs. La bête, pareil, oh, dissimulant sa déception, fait bonne figure. Mais on ne la fait pas, Auvenne. Tirant la nappe brodée à pleine main, elle renverse tout sur elle et pousse un hurlement prodigieux qui craque sa robe. La bête, béate d'admiration, s'agenouille et lui lèche les mains pleines de soupe.
Auvenne est toujours l'héroïne de chaque contelet. Et chaque contelet est écrit sans que je sache ce qui va se passer. C'est un peu comme un exercice, soit mystique, soit mathématique, ou comme, c'est comme les dessins médiumniques que je fais. C'est-à-dire que je pars en disant « Le sable de la plage garde l'empreinte d'Auvenne. » Et il va se passer quelque chose pour que la situation se renverse, pour qu'il y ait il y a un obstacle que va rencontrer Auvenne, et elle doit résoudre cet obstacle ou résoudre une énigme de façon à ce que la situation initiale se renverse totalement pour aboutir à une situation finale. Donc ça forme un œuf, en fait. Ça forme aussi une cavité.
Et vous écrivez où ces textes? Dans la rue, chez vous
Par exemple, tout à l'heure, non, c'était hier. On était avec mon amie poète Anne Pillier qui vient de lire de textes, et puis il y avait des grillades au feu de bois à Saint-Denis, et puis il y avait du foie de bœuf. Et je me suis dit, Auvenne va vouloir du foie de bœuf au feu de bois. Et donc, j'ai noté ça sur un bout de papier. Je me suis dit, il y aura une Oven qui va faire du foie de bœuf.
Donc, c'est pas encore fini, Oven, alors?
Non. C'est
j'ai une question
pas
là-dessus, j'aurai ouais, tout à ouais. l'heure.
Bah, à l'occasion, je vous lirai le dernier. Pour... Ce sera la preuve que c'est pas fini. Et Oven est un personnage triste et heureux qui n'est pas sans rapport avec ce qui se passe dans l'autre livre dont nous parlons tout à l'heure, Laissez pour compte. Laissez pour compte, c'est une, on le verra tout à l'heure, c'est une chronique des gueux du 18e que j'ai habité très longtemps.
Et, arrondissement, il faut préciser.
18e à Paris. Arrondissement à Paris, pardon, oui, dans le bas 18e, hein, entre Porte de la Chapelle et La Chapelle. Les junkies, les pauvres, hein, les laissés pour compte, les migrants, voilà, les enfants abusés par leur père.
Mais il faut préciser que compte, comment ça s'écrit dans votre titre ?
C-O-N-T-E-S.
Voilà, il faut bien le préciser, ouais. Ça.
Et Oven est irrésistiblement attirée par les laissés pour compte. Donc elle est très empathique avec tout ce qui est de l'ordre de la vieillesse, de la folie, de l'animalité et de l'enfance. Par contre, elle aime bien aussi péter la gueule aux forces de l'ordre, qu'elle appelle les farces d'ailleurs de l'ordre le plus souvent. Donc elle c'est un personnage très visifersesque, tandis que dans les laissés pour compte, ce ne sont pas des personnages, ce sont des figures de la rue, où là, il n'y a pas place pour le rire. Voilà. À tout instant, Oven peut surgir dans un champ. Les vaches, déjà au ralenti, alors s'immobilisent tout à fait. Elles se méfient. Leur langue se glace dans leur grande bouche. Le lait dans leur picaille. Oven rumine un mauvais coup. Elle attend la nuit. Elle verse dans l'abreuvoir de la colle en abondance. Ainsi ressembleront-elles toutes définitivement à des statues. Mais elle est souverainement myope. Elle s'est trompée de bouteille. C'est de l'alcool qu'elle a versé en abondance, du pur scotch. Et le troupeau de meugler toute la semaine des chansons à boire, des chants de marins et des cantiques en créole. La lune est à nouveau pleine de lait. Oven élève des maladies inconnues, dans une ferme encerclée de chiens en cuir épais. Quand elles sont bien mûres et jolies, avec des boutons roses et de la fourrure verte, elle les lâche sans hésiter. Mais les chiens n'en font qu'une bouchée et les renvoient illico presto dans un état piteux. Alors elle les réconforte, les guérit et les renforce jusqu'à ce qu'elles soient d'attaque. Seulement, elles ne veulent plus y aller. Elles sont malades de peur. Oh ! Oven dépose aussitôt un brevet. Elle est nommée chef de laboratoire. « 17 avril 2008. Pendant les vacances, Oven voudrait faire un stage à l'hôpital. Oh, elle hésite entre docteur ou malade. Elle achète un bistouri, une seringue, un verre à dents. Aux urgences, elle se présente. La queue est intensive, mais elle patiente en luttant contre les moustiques d'août. Quand c'est son tour, elle demande à voir un malade, si possible à opérer tout de suite. On l'examine à la loupe, puis on lui confisque tout son matériel. Elle doit se débattre contre la piqûre d'un énorme moustique en blouse blanche. Oven est croque-mort dans un cimetière. Ce n'est pas une fast-food. Alors elle prend le temps de chatouiller les morts sous les tarses et la clavicule. Ils se tiennent les côtes irrésistiblement. D'aucuns sans retenue meurent de rire. Drôlement embêtés, Oven leur tapote les mâchoires. Elle n'ose le bouche à bouche. Oh, c'est archi plein de maladies. Elle n'a plus qu'à les sortir un à un, nuitamment, et à les lâcher dans la vie sur une voie bien en pente. Oh, ils reviennent le dimanche se recueillir sur leur tombe, arroser leurs soucis. Il ne regrette pas cette rallonge à perpétuité.
D'accord. Merci, Tristan Félix. Alors, je vais commencer les questions d'ordre général et après, on passera à Oven. Et si on a le temps, parce que je vois que ça passe le temps déjà, on passera à laisser pour compte, mais on le fera brièvement en tout cas même. On arrêtera et on le fera brièvement. La première question que je vous poserai, Tristan Félix, sera de vous demander si vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez pris ce pseudonyme.
parce que je suis triste et heureuse, comme beaucoup de gens. Et voilà. Et il y a d'autres noms. Owen est un de mes alter ego. J'ai un nom de chevalière amoureuse qui est Gauvaine, le féminin de Gauvin. Et le livre est dédié à Perceval. Et il a suffi d'ôter le G devant Gauvaine pour faire Oven, sauf que le AU est devenu O. Voilà, ça fait Oven. Et il y a un clown qui s'appelle Gov de Crustace. Voilà.
Mais ça prête à confusion, Tristan Félix. On pense que c'est un
oui.
homme.
Oui, mais.
Alors, vous pouvez expliquer là-dessus.
Bon, je crois que je l'avais déjà dit, naguère, dans une émission, vous aviez la gentillesse de m'inviter. J'ai tenu une revue, donc je disais La Passe, pendant 12 ans avec le poète, mon poète ami Philippe Blondeau. Et je signais d'un nom différent à chaque fois. Et dont certains se retrouvent dans la Oven, la saga. Et c'était tous des oxymores. Donc Tristan, Félix, et qui c'était des oxymores qui sont parfois féminins. Alors il y a Saturnine Jovis, qui est première cosmonaute égarée dans l'espace. Vous avez aussi Angelica Damon, qui est historienne de l'impénitence canonisée en 1918. On rencontre aussi Claire Legris, qui est inspectrice des travaux infinis. Célestine Gaillat. Allô, allô, allô.
Non, je cherche à comprendre.
Le ciel et la terre.
Ah oui.
Qui est poule de luxe. Et Lude Sévère. Le jeu et l'austérité, qui est capitaine d'infanterie.
Et il y en a toutes les pages, parce que vous cherchez au hasard des pages.
Non, absolument pas, c'est pas n'importe où, c'est la préface de chaque ensemble de 36.
D'accord, je me disais, c'est...
Et Albine Lenoir, qui est haute responsable de l'aveuglement au cinéma.
Voilà. D'accord.
Donc je ne suis pas que... voilà, j'ai une paire de nichons, entre autres, enfin.
Vous êtes Tristan Félix, né au Sénégal, vous travaillez à Paris et demeurez à Saint-Denis. Vous nous aviez dit une fois à ce micro n'avoir aucun souvenir de vos premières années au Sénégal où vous êtes né.
Jusqu'à quel âge? 6 ans.
Attendez,
6, le contraire
pas
de
fini.
9.
Jusqu'à quel âge y avez-vous vécu et pourquoi cette absence de souvenirs selon vous? Étiez-vous trop petite, mais une image, une odeur, la chaleur, il n'en reste rien?
Alors, effectivement, mais j'ai une amnésie à 99,9% de mes années en Afrique. Je pense que ça a dû très mal se passer. Ça devait être un bordel familial absolument intégral. Donc, il vaut mieux oublier.
De toute façon, on se souvient rarement les premiers. De toute façon, oui. Pour tout le monde, les premiers souvenirs, c'est 3-4
ouais.
ans. 3-4
ouais.
ans, pas avant.
Ouais, c'est ça, mais 6 ans. Hein. Moi, je ne savais pas jusqu'à quel âge vous aviez vécu au Sénégal.
Enfin, au Sénégal, Mauritanie, Cameroun. 6 ans, effectivement. En revanche, il m'est resté. Comment dire, la proximité dermique, charnelle des femmes noires ou des hommes noirs de là-bas. Et c'est vrai que beaucoup de mes grands amis sont martiniquais ou africains, enfin d'Afrique noire. Et j'ai donné quelques années des cours de danse africaine. Enfin, voilà. Ma mère m'a appris quelques pas de danse africaine et j'ai poursuivi, j'ai pris des cours. Également, et j'en ai donné aussi dans les lieux où je travaillais. Je suis pas du tout une danseuse professionnelle, danse africaine, mais voilà. Puis j'ai toujours tourné aussi tout ce qui est caribéen, capoeira, salsa. Enfin voilà, j'aime bien le tellurique. Voilà.
Comme Olivier Appert, je vais vous demander si vous aviez accès à une bibliothèque familiale ou municipale dans votre enfance, et si oui, qui piochiez-vous?
Alors j'étais avec ma grand-mère, qui était directrice d'école, une femme extrêmement autoritaire. Et moi, à 18 ans, j'ai eu des gros troubles de lecture. Et j'en avais déjà un tout petit peu quand j'étais petite. Mon frère lisait une allure vertigineuse. Et en gros, plus il allait vite à lire, plus je ralentissais. En tout cas, j'avais des livres essentiellement... enfin, pas essentiellement. Les deux tiers des livres étaient tournés autour des animaux. Voilà, des animaux familiers, des animaux sauvages. Et sinon, le Club des Cinq, la Bibliothèque Verte, la Bibliothèque Rose, Un Bon Petit Diable, enfin voilà, c'est ces livres classiques qu'on trouve, surtout quand une grand-mère institutrice vous emmène, vous traîne jusqu'à la bibliothèque. Mais c'était pas une souffrance du tout, hein. si ce n'est que je lisais vraiment, comme je le dis dans un des textes, à la lenteur d'un petit gris. C'est un escargot.
Je sais.
Non, non, ça peut être aussi une sorte de vison. Une fourrure de petit gris.
Je vous demanderai aussi quelles sont vos lectures d'enfance et de jeunesse marquantes.
Bon, 14 ans, Les Chants de Mal d'Aurore, Les Illuminations d'Arthur Rimbaud, et Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Un cadeau de ma mère. Pour mon anniversaire. Et là, ça a été le séisme. Voilà.
Aviez-vous fait des études littéraires? Quel fut le sujet de votre mémoire?
J'ai fait des études littéraires, oui. J'ai commencé par faire maths. Puis comme j'ai fini à 3 sur 20, j'ai continué en lettres. Voilà. Et quelles étaient aussi vos questions? Ah oui, quelles étaient les sujets de mon mémoire? Je travaillais sur Jean Rey. Un peu au pif. Parce que Claude Leroy m'a demandé... quel serait mon sujet de mémoire?
Plus personne ne dit Jean Rey.
Voilà. Et j'ai dit
moi,
que.
Je ne connais pas Jean Rey.
Harry Dixon.
Ouais.
Ah, d'accord.
J'ai dit que je venais de découvrir.
D'accord.
Voilà, La Cité de l'Indicible Peur. Je travaillais sur Malpertuis et La Cité de l'Indicible Peur. Et que je venais de dégoter sur les quais, chez les bouquinistes. Il m'a dit parfait, tu vas travailler sur Jean Rey. Ben voilà, je travaillais sur l'archéologie paternelle et la transmission. Voilà. Dans les ouvrages de Jean Rey.
Et c'était à quelle université?
Nanterre.
D'accord.
Et je rajouterais que les premiers livres d'enfance que j'ai pu lire, c'était des concentrés qui étaient en fait des cartes postales que ma mère m'envoyait. Et qui étaient des sortes de livres concentrés en 10 lignes sur des cartes postales. Elle ne me racontait jamais ce qu'elle faisait, mais elle me racontait la couleur d'une mouche qui s'était posée sur un rebord de fenêtre ou le grain de voix d'un chauffeur de bus qui contenait des touristes. Elle me disait, tu aurais beaucoup aimé la voix de ce chauffeur. J'avais, je sais pas, 9, 10, 11, 12 ans. Et pour moi, ça a été peut-être plus fort encore que le Club des 5. Ça m'a appris que écrire, dire quelque chose, c'est une façon de transmuter le monde, de sublimer le monde et d'être très vite ailleurs que là où on se fait chier.
Pourriez-vous nous parler un peu de la revue La Passe que vous avez dirigée avec Philippe Blondeau de 2005 à 2016?
Ah, avec plaisir. Mais je vais en dire ce qui va advenir incessamment sous peu. Elle s'est éteinte il y a 3 ans parce que mon comparse n'avait plus trop envie de la poursuivre. Et puis moi, la poursuivre toute seule, je ne souhaitais pas. Vous m'avez très gentiment proposé peut-être de la poursuivre de façon radiophonique ici même, à Radio Libertaire. Ça ne s'est pas encore fait, mais l'esprit perdure. En 2017, j'ai proposé au André Chabin, Yannick Caravec et puis même Hugo Pradel, qui sont ceux qui s'occupent du Salon de la Revue, là au Blanc Manteau, à l'automne, de faire une passe en live, c'est-à-dire une passe sauvage, en improvisation avec des gens que j'aurais pu solliciter ou des gens de passage, voire certains éditeurs qui sont écrivains et qui étaient là à proposer leur revue. Je fournissais le papier, ainsi que la couverture, un joli papier. Hein. Et les contributeurs venaient avec leur stylo encre, leur aquarelle, je sais pas moi, leur acrylique, leur pastel gras, leur pastel pas gras.
Leur beau stylo, comme Olivier Appert.
Voilà.
Qui a pas voulu mon stylo, qui a pris le sien. Il a pris un beau, je m'en rappelle.
Et l'esprit de la passe, c'est vraiment renoué naturellement, même de la part de ceux qui ignoraient jusqu'à son existence. Par exemple, Philippe Botta, musicien, ami, est venu écrire une partition. Il est même venu avec son saxophone. Et puis, une autre personne est venue dessiner sur la partition des notes imaginaires. Et puis, quelqu'un est intervenu, une troisième personne, moi en l'occurrence, pour écrire des textes à l'intérieur de cette partition déjà retravaillée. Voilà, il y a... Oui, c'est quand même cette espèce d'émulation... absolument gracieuse et gratuite, où il n'y a rien à gagner, il n'y a pas de plus-value à défendre, il n'y a pas d'ego à exploser en public. Et c'est pour moi très important que quelque chose qui ne serve à rien existe, au moins pendant 3 jours, pendant le salon de la revue. Et les directeurs, donc j'aime pas beaucoup les directeurs parce qu'ils ont tellement un esprit sauvage qu'ils n'aimeraient pas que je les nomme comme ça. Ils ont les responsables, voilà, de cette organisation du salon de la revue sont ravis que je remette cette expérience sur le tapis, voilà.
Vous êtes aussi dessinatrice, photographe, marionnettiste, performeuse, conteuse chamanique en langue imaginaire et clown trash. Pouvez-vous nous parler brièvement de ces activités diverses ?
Le point commun, c'est... Tout à l'heure, je vous disais que j'étais 24 heures sur 24 en branchée, si je puis dire, sur un courant électrique éprouvant, mais en même temps... j'ai une épithète qui est très très usée, jubilatoire. Alors, si on veut trouver autre chose, Olivier, t'as pas autre chose. Jubilatoire, c'est vraiment. Oh là là.
Oui, c'est un peu. On rit beaucoup. On
ouais,
jubile.
Ouais, ouais, ouais. C'est le monde ludique, on est là pour s'éclater. Comment dire, excitant, voilà. Je suis toujours dans cet état d'esprit. Et Goff de Crustace, c'est un transfuge ou un alter ego d'Oven. C'est quelqu'un d'extrêmement, de fondamentalement tragique, mais qui est là pour guérir. Elle a un côté chamanique aussi. Les dessins médiumniques, comme les écritures d'Oven, sont une façon de laisser une partie de l'inconscient travailler avec sa propre logique.
Oui, par exemple, on a déjà parlé une fois.
Oui.
Quand vous dites des dessins médiumniques, normalement.
Oui. Alors, je ne discute pas avec les morts.
Non, mais je préfère.
Sauf pour de faux.
Je donne. Normalement, quand on dit ça à un dessin médiumnique, la personne voit le dessin dans sa tête et le reproduit.
Oh non, c'est voilà. Elle est dictée par les esprits des morts, comme Victor Hugo pouvait faire ses aquarelles médiumniques. Moi, je suis dictée par des esprits que j'invente et qui sont dans mon inconscient et dont j'ai à peine conscience. C'est-à-dire que le
Crustace, elle est surréaliste.
Voilà, absolument. C'est pour ça que j'appelle ça aussi dessin fantôme, dessin automatique, dessin sauvage. Mmh. Je ne dis pas que je vais créer une casserole. Le trait part de façon extrêmement minutieuse, vraiment comme une dentelle bretonne. Puis si à jamais un œil apparaît, ou si un cul de poule apparaît, il va y avoir un cul de poule qui va se transformer en œil, lequel peut-être va finir en casserole. Et ce sont un petit peu des dessins kaléidoscopiques, on peut dire aussi. Chacun peut y investir son propre imaginaire. Et dans Oven, on peut y retrouver ce genre de choses aussi. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un court-métrage avec mon complice Nikami, qui est caméraman et cadreur, c'est un peu la même chose. Et j'ai fait voir ce court-métrage à mon amie Anne. Elle y a vu tout à fait autre chose que ce que j'avais pu y voir. Et ça me réjouit, parce que c'est pas clos de façon autoritaire, quoi. Il n'y a pas d'horizon d'attente. Donc là, il y a un rapport entre la scène du clown, entre la page du dessin, entre la page de l'écriture. Les photographies, je photographie essentiellement des fantômes que je vois sur les murs ou des dispositions aléatoires de l'est de mer après les grandes marées ou des taches sur des arbres ou à voir sur la peau de certaines personnes. Voilà, c'est excusez-moi, on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de dire voilà. Non, je suis concentrée. Donc, c'est toujours un écrire, dessiner, photographier. Cuisiner. Tu disais, Olivier, différence, mais je ne fais pas tout à fait de différence. Même la façon de marcher, danser, être dans les bras de quelqu'un en dansant un tango, c'est aussi une improvisation, c'est pas ce qui va se passer. Et c'est pour ça que récemment, je me suis mise au tango, parce que c'est une des rares, peut-être la seule danse, où on ne sait pas du tout ce que le cavalier va vous impulser. Et donc... se produit quelque chose de miraculeux qui est ce à quoi on ne s'attendait pas et qui va retomber sur ses pattes. En l'occurrence, 4 pattes. Le guideur et la guidée, ou la guideuse et le guidé. Je m'ennuie si je sais ce que je vais faire. Et je rate si je pense que je suis pas douée, si je ne serai pas bonne, ça va être moche si je sais ce que je vais faire à l'avance. Il faut que je sois sur le fil du rasoir. Je suis par ailleurs enseignante dans le bas 18e et je fais les cours de la même façon depuis plus de 20 ans. J'arrive en cours et je vais me faire virer après cette émission-là. Hein. J'arrive en cours et en fonction du regard des élèves, en fonction de leur interrogation, un texte va advenir et je serai sur comme un funambule. Et les élèves ont l'impression que je suis en train d'apprendre ce que je leur enseigne. Et ça, je leur ai dit. Ils ont un peu, ils comprennent difficilement, mais ils comprennent en fait. Et parfois, c'est eux qui deviennent les professeurs. J'adore ça. C'est magnifique.
Vous faites aussi de petits films avec Nick Amy, dont vous venez un peu de parler. Où peut-on les voir, ces petits films ?
Sur Dailymotion, il y a deux sites. Il y a Tristan Félix, c'est un site qui regroupe plutôt des captations de spectacles et puis des expériences philosophiques avec les élèves. Parce que je les initie au questionnement socratique des 12 ans. Et puis, il y a Brut de Crustace, Dailymotion, qui comprend des courts-métrages qu'on a intitulés des Crash Clowns de 3 à 5 minutes. Mais c'est tellement blindé de pubs qu'on s'est tourné vers Vimeo, où là, on a tout, on met tout. Voilà, Vimeo et Olivier approuvent. C'est un site un peu plus sain, un peu plus propre. Et on y trouve là des crash clowns, des captations de spectacles.
En tapant Tristan Félix.
Pardon. En tapant Tristan Félix, voilà, on tombe dessus, il est marqué Tristan Félix, on Vimeo et on trouvera là ce qu'il faut.
On a assez parlé d'Oven.
Alors juste, je vais lire le dernier Oven pour que vous voyez que c'est pas fini.
Ben, je me suis posé la question, ouais. Je l'ai relu justement avant de partir.
C'est pas fini. 23 mai 2016, attention, Oven est fermé pour inventaire. Ses amis brigands et les 3499 petits cochons noirs des abattoirs de la betterave, le fameux bof de Crustace, et bien sûr l'instance de la plus haute invisibilité sont réunis autour de sa table. Ils partagent en silence une ombre d'omelette. Des restes de dieux farcis au foie gras, une poignée de radis fiscaux et des côtelettes d'Isaac, lorsqu'au dessert éclate une dissertation sur la probabilité de la patate physique des quantiques. Le Lougrel s'immisce alors et déclare la réouverture définitive de la boutique d'Oven, le Ovdi seulement, entre chien et loup et dans la limite de l'infini. Et toc.
Merci Tristan Félix. Ben, il nous reste, disons, 6-7 minutes.
Ouais.
Il y aura un disque à la fin, toujours. Alors donc, je pose pas de questions sur Oven.
Oui.
Je passe directement à Laisser pour compte, journal des douleurs sorti aux éditions Tarmac par Tristan Félix. Comment est né ce livre ? Ce sont d'anciens textes. Étaient-ils destinés à la publication ?
Alors, plusieurs de ces textes ont paru dans Dissonance, dans Les Écrits du Nord aux éditions Henri, tenues par Jean Le Bouël. Dans La Passe également, et je crois même, si j'ai bonne souvenance, dans Des Charges peut-être. Ils étaient donc destinés à la publication, et là je les ai rassemblés, et j'ai songé à Jean-Claude Gouary qui tient les éditions Tarmac, qui est vraiment un personnage, qui est une personne très, très sensible, très empathique, doté d'un très grand humanisme, pas au sens communicationnel actuel. Vraiment quelqu'un qui a un sens très aigu de la souffrance, de la douleur et de la résistance politique. C'est, je trouve d'ailleurs, le meilleur écrivain de sa propre édition. Il écrit très très peu. J'ai eu le bonheur de le chroniquer lui-même. Et Jean-Claude Gouary est un personnage que j'estime infiniment. Dans la revue Dissonance, où je chronique régulièrement. Et je lui ai proposé ce texte et qu'il a touché. C'est une chronique des gueux du 18e que j'ai habité pendant plus de 20 ans, le bas 18e, donc...
Arrondissement précisément.
Excusez-moi, oui, pas tout à fait. Dans le 18e arrondissement, vers entre Porte de la Chapelle, si vous voulez, et Marx d'Ormois. Et je vais vous en lire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Plutôt que de faire des petits extraits, je vais en lire un. C'est une chronique qui a été tenue donc, de 2003 à 2015. C'est la chronique numéro 17. Il y en a 18, évidemment, 8 et 1, 9. On retrouve, bref. 23 décembre 2013, métro La Chapelle, Paris 18e. Ça s'intitule La Curée. À 10 heures, il était seul sur sa grille chauffante, à la pointe d'un triangle dont l'un des côtés entre directement dans le temple de Ganesh, l'autre dans l'agence de pompes funèbres musulmanes. Il bruine depuis l'aube, et personne de sa communauté, ni de celle des petits bourgeois, pratiquant l'exotisme épicé d'un fatatisme lointain, ne l'accueillera. Moi non plus. Je ne le prendrai pas dans mes bras. D'une maigreur de verre jusqu'au visage tavelé de bistre et de bronze, il tire sur sa couverture mouillée et fume un petit rouleau d'eucalyptus. Cet homme, éternisé dans la misère, a la beauté qui s'en va. Pour ne rien perdre de la pitance déposée, une nuée de pigeons becquette à deux doigts de ses yeux, éjectant des frites et du hachis de viande dans ses cheveux. Je ne puis qu'agiter les bras pour les chasser, mais l'ombre épaisse des charognards revient. Il viendrait manger jusque dans sa bouche. Il y a déjà 9 jours qu'il est là, en hibernation et imbibé d'alcool pour oublier le froid. Est-il sacré ou si insignifiant que tout le monde attende sa mort comme sur un trottoir de Calcutta? Est-il de cette caste des intouchables pour que nul ne l'approche? Ce soir, à mon retour, un compagnon dont on ne voit pas la tête s'est glissé à côté de lui, dans un sac de couchage bleu nuit. L'autre s'est assis, les épaules nues, le regard glauque. Une voiture de police à grand renfort de sirène arrive. 3 agents à tête de mastif sortent de la berline, jambes écartées, chargés de nettoyer le terrain. L'un des 3 enfile un gant et soulève une loque de tissu tandis que les 2 autres tournent autour du couple d'épaves, bandant tous leurs muscles pour parer au ridicule. Inexplicablement, ils repartent, prévenir sans doute le service de ramassage des âmes pas mortes. Le lendemain matin, les 2 tamouls, à peine mus par le souffle du sommeil, gisent, tordus dans leurs sacs et couvertures, sous une pluie fine et glacée. Les barquettes jaunes en polystyrène sont vides et souillées de harissa. J'ai le sentiment que les linges trempés sont des matières mourantes, qui font corps à leur corps. La vie indistincte, indifférente, poursuit son cours à distance des consciences révulsées. Combien de corps d'1,60 m, vivants ou morts, pour franchir la distance, de la rue Pajol à la place Vendôme où siège le ministère de la Justice et les joailliers de sa couronne, 2500. L'exposition consacrée à Cartier au Grand Palais attirera un nombre bien plus grand de corps brillants. On en est là. Ne pas déranger, c'est fête et les enfants sont impatients. Pardon, encore un mot. Soudain, je songe que ces 2 misérables sont en effet ramassés chaque nuit pour une désinfection et qu'ils reviennent sur cette grille chauffante comme attachés à leur mort face au dieu Ganesh, à la trompe si compatissante. Soudain, je songe que ces 2 misérables ne sont jamais les mêmes, qu'ils enfantent la misère sans autre identité qu'un passage de la nuit au jour. Ils se réincarnent en leur propre disparition. Soudain, je ne songe plus. Je continue de respirer dans Paris, ville, lumière. Je remercie Jean-Claude Gouary de m'avoir accueilli et de les avoir accueillis, ces gueux. Et je remercie aussi Guillaume Basquin des éditions Tinbad d'avoir accueilli Auven.
Oui, j'avais une question pour
qui
vous.
Qui a été refusée chez pas mal d'éditeurs. Pardon ?
Je voulais, pouvais dire 2 mots des éditions Tinbad. C'est une jeune maison.
C'est une jeune maison d'édition qui essaye le plus possible d'éditer des écrivains à haute teneur littéraire, parfois sulfureux, ou du moins en décalage par rapport aux têtes de gondole. Guillaume Basquin a publié notamment, enfin le dernier ouvrage qui a été publié. Que j'ai publié, c'est chez lui et qui s'intitule que pour lequel vous m'avez invité, c'est Extrémité Observatoire des extrémités du vivant, qui est encore un triptyque, voilà, où il est question cette fois-ci de fœtus abandonnés dans le formol et puis d'autres visions de créatures abandonnées.
Alors, j'ai une dernière question, parce que je poserai pas tous, il est trop tard, la mission est finie. Dans quelles circonstances ont été écrits ces courts textes? Ils sont datés et le lieu de création est aussi inscrit. Aviez-vous un carnet?
Pas de carnet, c'était des textes qui ont été écrits sur ordinateur.
Et après coup, alors du 18e.
Après coup, voilà. Je rentre chez moi, je vois des Tchétchènes vautrés dans les poubelles de Monoprix. Je reviens, j'écris ça. Je suis à ma fenêtre, je ferme les volets, j'entends une petite fille qui dit à son père, un mauricien, totalement imbibé d'alcool, « Papa, arrête, papa, arrête. »
Ouais, ça, je me souviens. Voilà.
Et le lendemain, je suis allée au commissariat, je suis allée à l'école pour voir le maître. Au commissariat, ils m'ont dit « Excusez-nous, on n'a pas que ça à faire. » En gros, ils étaient très, 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 très occupés par d'autres choses beaucoup plus importantes. Et quant au directeur de l'école, il m'a dit qu'aucun signalement n'avait été fait. C'est-à-dire que mon témoignage...
n'était pas un signalement.
N'était pas un signalement. C'est extraordinaire. Et peut-être que la littérature ne sert à rien, sinon à laisser peut-être comme ça quelques témoignages.
Ce sera le mot de la fin, Tristan Félix.
Merci beaucoup, Tristan, Thierry, de m'avoir invité.
Merci, Olivier Appert.
Merci, Thierry.
Musique, Polizzi, Michel Polizzi.
Eh bien, il est 17h, on va passer aux choses en direct et on va très tranquillement démarrer avec l'anniversaire du jour du saxophoniste Sonny Fortune, ici enregistré avec Miles Davis. En 1973, tourné au Japon avec Michael Anderson, le bassiste, les deux guitaristes Pete Cosey, Reggie Lucas, M. Toomey et Al Foster, les percussionnistes batteurs, et Sonny Fortune saxophone, Miles Davis la trompette. Live in Japan, Agartha.